C'est l'heure de retrouver le journal de la rédaction et Camille Magnard ce midi. Bonjour Camille.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous.
L'espoir fragile d'un arrêt des combats à Gaza.
Oui, reprise à l'instant au Caire des négociations pour une trêve à la veille de la fin du Ramadan et l'annonce hier de l'armée israélienne qu'elle retire ses troupes dans le secteur sud de l'enclave à Khan Younes. Retrait pour mieux préparer l'assaut à Rafah. C'est ce que nous verrons dès le début de ce journal avec Alice Froussard. Le procès des Panama Papers s'ouvre dans le petit état d'Amérique centrale, 8 ans après cette déferlante de révélations internationales sur l'évasion fiscale pratiquée par les cabinets d'avocats panaméens. Dans ce contexte, nous verrons qu'en France, 130 magistrats dénoncent la faiblesse des moyens alloués à la lutte contre la criminalité financière internationale. Des négociations qui coincent au pied du mur, là c'est entre syndicats et patronat français, réunis pour une ultime séance sur l'emploi des seniors. Faire monter Marion Maréchal, pour tenter de faire baisser Jordan Bardella, ça c'est le jeu potentiellement dangereux auquel le camp présidentiel semble prêt à jouer. La candidate macronienne Valérie Ayer pour les européennes va débattre ce soir avec la tête de liste d'extrême droite Reconquête, Marion Maréchal donc sur CNews. Et puis notre invité c'est Max Rousseau, géographe politiste, pour revenir sur cette proposition de loi soumise au vote définitif de l'Assemblée nationale aujourd'hui sur les conflits de voisinage dans les campagnes françaises entre usage agricole et nouveaux modes de vie amenés par les néo-ruraux. 6 mois de guerre israélienne dans la bande de Gaza, plus de 30 000 morts gazaouis et des objectifs de guerre affichés par Benjamin Netanyahou qui semblent encore loin d'être atteints. Hier, l'armée israélienne a annoncé le retrait de ses soldats qui combattaient le Hamas depuis 4 mois dans le secteur de Khan Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne. Et il intervient ce retrait alors que les négociations au Caire en vue d'une trêve devaient reprendre aujourd'hui dans l'espoir d'arracher un arrêt des combats pour la fin du Ramadan demain. Mais ce retrait partiel israélien. Il ne signifie pas pour autant la fin de l'occupation, des bombardements ou même de futures opérations militaires. On voit ça depuis Jérusalem avec Alice Froussard.
Après 4 mois d'offensive à Khan Younes, la deuxième plus grande ville de la bande de Gaza, les soldats israéliens se sont retirés. Le premier ministre Benjamin Netanyahou se félicite et insiste. D'après lui, des milliers de membres du Hamas ont été tués, des postes de commandement ont été frappés. Mais les deux objectifs de guerre, ceux qu'il martèle en permanence, n'ont pas été atteints. Aucun des chefs militaires du Hamas, Yahya Sinwar ou Mohamed Def, n'a été tué. Et surtout, il n'y a eu aucune avancée en ce qui concerne les otages israéliens retenus à Gaza. Un tel retrait, estime la presse israélienne, peut donc se comprendre soit car Israël prépare une offensive à Rafah, cette ville où se massent plus d'un million de déplacés gazaouis qui n'ont nulle part d'autre où aller, la seule ville qui n'a pas encore été attaquée au sol, qu'Israël considère comme le dernier bastion du Hamas. Ce retrait peut aussi être synonyme de progrès inattendu en ce qui concerne les négociations en vue d'une trêve, soit car une escalade se prépare au front nord, celui avec le Hezbollah et l'Iran. Le quotidien israélien Haaretz se voit aussi une quatrième possibilité, celle où Benjamin Netanyahou joue la montre. Il est en effet le seul à qui la guerre bénéficie, une manière pour lui de rester au pouvoir. Lors de la réunion du cabinet de guerre hier, il a promis une fois de plus qu'Israël était à un pas de la victoire totale. Mais une fois ce pas franchi, il y aura certainement des appels à des élections anticipées.
Alice Froussard, et pendant qu'Israël maintient le flou sur sa stratégie autour de Gaza, c'est l'Allemagne qui fait face aujourd'hui et demain à une action en justice intentée contre elle devant la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'ONU. Berlin accusé de fournir des armes à Israël et de faciliter ainsi un génocide à Gaza, ce sont les termes de l'accusation qui est portée devant la Cour par le Nicaragua. L'Allemagne est le deuxième fournisseur d'armes d'Israël derrière les États-Unis. Et la suite, c'est avec Nathalie Versieux à Berlin.
L'Allemagne a livré l'an passé pour 326 millions d'euros de matériel militaire à l'État hébreu, essentiellement du matériel de défense. C'est l'un des arguments que vont avancer les diplomates allemands devant le tribunal de La Haye. Même si l'an passé, 3000 lance-roquettes portatifs ou encore 500 000 munitions ont également été envoyées en Israël, des armes donc pour une valeur totale de 20 millions d'euros. Les délibérations auront lieu aujourd'hui aujourd'hui et demain. Les juristes ne s'attendent pas à ce que le tribunal interdise à l'Allemagne de vendre des armes à Israël, mais Berlin pourra difficilement ignorer totalement la pression internationale autour de cette plainte, d'autant que l'opinion allemande aussi évolue. 17% seulement d'entre eux soutiennent encore l'opération à Gaza, contre plus de 50% à l'automne. Déjà, les livraisons de matériel militaire à Israël ont reculé depuis le début de l'année.
Nathalie Versieux à Berlin.
La communauté internationale nous a tous laissé tomber, soit par mépris, soit par lâcheté.
Les propos très incisifs du président rwandais Paul Kagame au cours des commémorations des 30 ans du génocide des Tutsis, 800 000 morts au printemps 1994, et des déclarations qui font écho aux propos attribués par l'Élysée à Emmanuel Macron en fin de semaine dernière. Il y était question de la France qui n'avait pas eu la volonté d'arrêter le génocide au Rwanda. Alors, disait le président français, qu'elle en aurait eu les moyens. Un passage d'un discours vidéo qui n'a finalement pas été diffusé, ce passage, hier à Kigali. Des dizaines de corps recouverts de couvertures sur le sable d'une plage du Mozambique. C'est une image qui fait suite au naufrage hier d'un bateau de pêche reconverti en ferry qui a coulé au Mozambique, donc avec 130 personnes à bord. Une centaine ont péri noyées, dont de nombreux enfants, selon un responsable local cité par l'AFP. Il indique que le bateau était surchargé par un flot de passagers qui voulaient fuir vers l'île de Mozambique, paniqués par de fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux qui faisaient état d'une soi-disant épidémie de choléra. Des inondations dans le centre de la Russie autour du fleuve Oural, dans la région du même nom. Le Kazakhstan voisin est aussi touché en cause des températures douces pour la saison qui amplifient la fonte des neiges et les pluies. Une digue sur l'Oural a cédé en fin de semaine dernière, provoquant l'évacuation d'une grande partie de la ville russe d'Orsk, 220 000 habitants. Plus de 10 000 bâtiments résidentiels en tout sont inondés selon les autorités locales russes.
Le scandale avait été mondial il y a déjà 8 ans. Aujourd'hui, c'est le procès qui s'ouvre pour cette affaire d'évasion fiscale dite des Panama Papers.
Panama Papers, du nom de ces révélations faites par un consortium international de journalistes d'investigation sur les agissements d'un cabinet d'avocats panaméen. Il avait permis à des personnalités du monde entier, politiques comme David Cameron, le britannique, sportives comme Lionel Messi, l'argentin, ou du monde de la culture comme l'espagnol Pedro Almodovar, de cacher au fisc une partie de leur fortune. 27 personnes sont sur le banc des accusés de ce procès qui a été plusieurs fois repoussé ces 3 dernières années au Panama, où l'évasion fiscale n'était pas considérée comme un crime jusqu'en 2019. Et c'est dans ce contexte qu'en France, 130 magistrats spécialisés justement dans la lutte contre la délinquance financière internationale demandent plus de moyens humains et matériels pour pouvoir mener efficacement leur mission ces dernières années, notamment après les nombreux scandales qu'on vient d'évoquer, comme les Panama Papers. Les moyens alloués à la justice financière française ont bien augmenté, mais pas aussi vite que la criminalité en col blanc. C'est cela que dénoncent les magistrats signataires d'une tribune dans les colonnes du Monde, Thomas Pinaroli.
Oui, ils avancent ce chiffre éloquent. Dans les services économiques, chaque policier gère 500 à 800 dossiers d'enquête contre 180 en moyenne dans les autres services. Les conséquences, ce sont des affaires qui durent plus longtemps. Une loi votée en 2021 imposait une durée de 2 ans maximum à chaque enquête. Elle a déjà été enterrée. Des affaires traitées seulement en surface et moins souvent résolues. Les 130 magistrats considèrent pourtant que la lutte contre la délinquance financière est un investissement à la fois rentable pour le budget de l'État et vital pour la démocratie. Rentable pour le budget car les enquêtes mènent souvent à de très grosses amendes. Depuis la création du parquet national financier il y a 7 ans, elles ont rapporté 4 milliards d'euros aux caisses de l'État. Ces condamnations permettent aussi de faire une distinction nette entre les fraudeurs et les honnêtes gens, insistent les magistrats. Et donc vital pour la démocratie, car derrière les affaires d'escroquerie et d'arnaques en ligne se cachent, je cite, des organisations mafieuses qui concurrencent la République, des mafias qui, d'après le service de renseignement sur la criminalité, multiplient la corruption et même l'achat de voix. C'est pour ça que les signataires de la tribune appellent à démanteler en profondeur les réseaux de blanchiment des trafics à travers des enquêtes financières plus poussées.
Merci à vous Thomas Pinaroli. Le plan anticorruption du gouvernement doit être présenté dans les prochaines semaines. Il est attendu par les magistrats depuis le début de l'année. La journée, la nuit même s'annonce promettre d'être très longue et très tendue pour les négociateurs des syndicats et des organisations patronales françaises réunies depuis 8h30 ce matin au siège du MEDEF à Paris. Ils ont jusqu'à demain matin pour trouver un accord sur l'emploi des seniors. Sujet remis en lumière par la réforme des retraites l'an dernier. Le gouvernement gouvernement a promis d'intégrer les mesures qui pourraient être négociées par les partenaires sociaux à une future loi sur l'emploi des seniors. Mais pour le moment, et même au pied du mur, les négociations ne semblent pas sur le point d'aboutir, Wafia Kenich.
Trouver une solution dans la journée qui n'implique aucune dépense publique supplémentaire. C'est le défi que doivent relever les partenaires sociaux aujourd'hui lors de leur rencontre dans les locaux du MEDEF. Les débats vont donc aller bon train sur deux dossiers. D'abord, l'emploi des seniors. Les organisations patronales proposent un nouveau contrat en CDI senior. Un CDI qui n'en est pas un selon les syndicats. L'entreprise aurait la possibilité de licencier le senior quand il arrive à taux plein. Ce senior percevrait ensuite des indemnités chômage pendant 6 mois et enfin, il pourrait à nouveau être embauché, ce que les syndicats refusent. Pourquoi licencier un senior pour le reprendre ensuite ? Pour eux, le patronat souhaite simplement récupérer les exonérations de cotisations. Le patronat, de son côté, justifie ce CDI senior, expliquant qu'il permettrait d'embaucher un senior en recherche d'emploi. Les organisations syndicales avaient, de leur côté, envoyé 10 propositions. Aucune n'est reprise dans la dernière version adressée par le patronat. Par ailleurs, une faille apparaît au sein du patronat lui-même. L'UDP n'aurait pas été associée à l'élaboration du texte patronal. L'organisation, qui regroupe 3,7 millions de TPE et PME, aurait donc envoyé au syndicat ses propres propositions sur les reconversions et sur le compte épargne-temps universel, une mesure que cette organisation patronale semble soutenir, contrairement au MEDEF. Bref, les discussions vont donc être tendues et pas seulement entre patronat et syndicats de salariés.
Wafia Kenich, si aucun accord n'était trouvé tard dans la nuit, une séance de négociation supplémentaire pourrait se tenir demain matin.
Il est 12h41 sur France Culture, c'est la suite du journal de Camille Magnard. Bien au-delà des querelles de Clochemerle, c'est une proposition de loi très politique qui termine aujourd'hui son parcours législatif à l'Assemblée nationale.
Oui, le texte voté en dernière lecture par les députés concerne les conflits de voisinage dans les campagnes françaises entre, principalement, il faut bien le dire, les agriculteurs et les nouveaux habitants des zones rurales. C'est néo-ruraux que vous étudiez, entre autres sujets. Bonjour Max Rousseau.
Bonjour.
Et merci d'être notre invité aujourd'hui. Vous êtes géographe, docteur en sciences politiques, chargé de recherche au CIRAD à Montpellier. Vous étudiez donc les espaces urbains, périphériques ou en déclin. Et on va parler déjà de la proposition de loi dont il est question. Elle est issue du camp présidentiel avec ce principe de droit qui fait qu'on ne pourrait pas accuser une personne de trouble anormal au voisinage si l'activité qui entraînait ce trouble existait déjà avant l'installation de la personne qui s'en plaint. C'est assez clairement une manière, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais de protéger les activités agricoles dans les zones rurales.
Oui, c'est certain. C'est une proposition de loi qui vise à protéger les activités agricoles. Mais la question sous-jacente, c'est plutôt quelles activités agricoles. Parce qu'on sait très bien qu'il y a actuellement un conflit entre deux visions de l'agriculture, une vision intensive, traditionnelle, qui est notamment portée par le principal syndicat, et puis une vision plus douce, plus agroécologique, qui est notamment portée effectivement par des populations issues des villes, ceux qu'on appelle les néo-ruraux.
Donc vous êtes directement dans les enjeux politiques de ce texte de loi qui pourrait paraître parfois peut-être un peu anodin sur ces conflits de voisinage. Alors dites-nous, comment est-ce que cela s'exprime dans les conflits dont il est question, ces tensions qu'il pourrait y avoir autour de deux modèles agricoles, comme vous en faites référence ?
En fait, je pense que ces tensions, elles sont très anciennes. On pourrait recourir à l'histoire. On pourrait remonter au XVIe siècle, au mouvement des enclosures en Angleterre, qui était déjà considéré comme un mouvement urbain et, de possédants, de propriétaires urbains qui ont ensuite enclos les champs communaux. Donc, ces tensions, elles sont pas nouvelles. Après, je pense qu'elles sont multipliées à partir des années 80, sous l'effet d'une nouvelle forme d'urbanisation qui a explosé, notamment en France, qui est la périurbanisation, sous la forme de lotissements pavillonnaires. Et c'est ce type d'habitat qui a mis en contact assez brutalement des populations avec des modes de vie plutôt citadins, avec effectivement des groupes qui étaient plutôt attachés à l'agriculture. Et c'est là que les conflits ont pu commencer à émerger, à se développer davantage dans un pays comme la France.
Mais dans la réalité, est-ce qu'on voit une augmentation de ces conflits qui arrivent peut-être aujourd'hui en justice plus qu'à une autre époque ? Est-ce qu'il y a un vrai phénomène d'augmentation de cette néo-ruralité ces dernières années ? On en a beaucoup parlé autour du Covid notamment.
Alors, moi, je suis pas juriste, mais ce que j'ai pu lire, hein, c'est qu'on peut pas avoir d'objectivation de ces chiffres, parce que c'est des statistiques qui sont introuvables, en fait, si vous voulez. Donc, on peut pas vraiment savoir. Alors, du coup, ça devient il y a une instrumentalisation politique autour de ces conflits.
Voilà, on en revient à la question de dire pourquoi est-ce qu'une proposition de loi aujourd'hui, finalement?
Ah ben, la proposition de loi, effectivement, d'après les opposants, c'est plutôt une manière de protéger un certain modèle agricole qui est jugé de plus en plus dépassé par une population.
Mais alors justement sur les pratiques qui sont parfois reprochées par les nouveaux arrivants dans les zones rurales, quelles sont ces pratiques et en quoi est-ce qu'elles penchent plutôt d'un côté d'un modèle agricole comme vous le dites plutôt que d'un autre?
Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que ces propositions de loi, elles se basent sur une vision caricaturale des néo-ruraux. En fait, il y a plusieurs types de ce qu'on appelle les néo-ruraux improprement. Donc déjà, la majorité des néo-ruraux, ça va plutôt être des retraités ou des pré-retraités qui vont s'installer à la campagne. Vous allez avoir des populations très pauvres qui vont être exclues des cœurs métropolitains, qui vont s'installer à 30-40 km des cœurs métropolitains. Et eux ne vont pas du tout être en mesure, pour des raisons de trop faible capital culturel ou social ou même économique, de pouvoir porter plainte contre qui que ce soit. Vous avez par contre, effectivement, c'est vrai, un phénomène de cadre en télétravail qui se développe depuis 3-4 ans, des gens qui vont aller de plus en plus loin hein, à l'intérieur des terres grâce au télétravail. Donc eux, effectivement, auront plus les possibilités de défendre leurs intérêts et en plus, ce sont des gens qui sont bien informés et qui peuvent être tout à fait conscients des dangers qu'il peut y avoir pour les organismes de certaines pratiques hein, liées à l'agriculture intensive. Donc à mon avis, c'est plutôt eux qui sont ciblés.
On parle de pratiques d'épandage, par exemple, de produits phytosanitaires. On parle de quel type de pratiques?
Ben c'est tout à fait, ce sont ces pratiques-là. Après, et donc vous avez ces populations qui sont dotées de bons niveaux de capital culturel, qui savent se défendre, hein, qui peuvent prendre un avocat et qui peuvent effectivement poser ces enjeux. Après, moi, ce que je pense également, c'est que la loi met sur le tapis la question des querelles de voisinage, alors que la vraie question, qui n'est pas du tout abordée, c'est plutôt la question des querelles d'usage. C'est-à-dire que effectivement, l'arrivée de ces populations va plutôt entraîner une renégociation du rôle de la forêt ou de l'eau, de l'usage de l'eau, ou de la chasse, par exemple. Donc là, on n'est pas sur des querelles de voisinage, mais plutôt sur des conflits d'usage autour d'un territoire beaucoup plus large que simplement ce qui me sépare de mon voisin. Hein, voilà. Et c'est ça ce qui est beaucoup plus important et qui risque de se politiser très fortement dans les prochaines années.
Merci beaucoup pour ces éclairages, Max Rousseau. Merci d'avoir été l'invité de France Culture ce midi. Je rappelle que vous êtes géographe, politiste, rattaché au CIRAD de Montpellier.
Il faut se méfier des sondages.
Ça, c'est le mantra du camp présidentiel à 2 mois des élections européennes pour lesquelles, on le sait, les études d'opinion donnent la liste macronienne assez loin derrière celle du Rassemblement National à respectivement 16 et 30% d'intentions de vote. Se méfier des sondages donc, mais pas forcément se méfier de l'autre tête de liste d'extrême droite, Marion Maréchal. Valérie Ayé, qui mène la liste Renaissance, lui fait l'honneur d'un débat en face à face ce soir 21h, qui plus sur la chaîne CNews. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Camille.
Hier déjà, Marion Maréchal débattait avec Marie Toussaint, la tête de liste des écologistes. Les équipes de campagne de Reconquête se félicitent de l'intérêt médiatique pour leur liste. Mais derrière, il y a bel et bien des arrière-pensées stratégiques pour les têtes de liste qui tentent de faire monter en quelque sorte le vote Marion Maréchal.
Oui, il y a un intérêt commun à la tenue du débat entre Valérie Ayé et Marion Maréchal ce soir. Du côté de Marion Maréchal, ça la crédibilise comme candidate prise au sérieux par l'une des deux têtes de liste favorites du scrutin. Ça lui octroie une forme de légitimité et ça la renforce. Et puis du côté de la tête de liste Renaissance, Valérie Ayé, l'intérêt est d'essayer de renforcer et de faire monter l'une des concurrentes directes de Jordan Bardella. Car tout ce que peut gagner la liste Reconquête conduite par Marion Maréchal constitue potentiellement des voix volées au Rassemblement National. C'est donc pour cette raison que la candidate du parti présidentiel a accepté ce débat ce soir. Il s'est monté très vite, indique le site d'information Politico ce matin, en 2 ou 3 jours à peine. Ça fait plusieurs semaines que le camp présidentiel essaie de trouver un moyen d'affaiblir la liste conduite par Jordan Bardella. La mise en avant de la position ambiguë du Rassemblement National vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine fait partie de cette stratégie de campagne. Mais pour l'instant, rien n'y fait. La liste du RN est de façon très régulière mesurée aux alentours autour des 30% d'intention de vote. Alors vous le disiez, bien sûr, il faut se méfier des sondages, surtout ceux qui concernent les élections européennes, car c'est un scrutin lors duquel les électeurs se déterminent très tardivement, parfois le jour même du vote. Il peut donc y avoir des écarts importants avec des enquêtes réalisées parfois quelques jours avant. Toutefois, il donne malgré tout une tendance pour chacun des candidats et un ordre de grandeur du résultat qu'ils peuvent escompter. Et à ce stade, c'est très bon pour le Rassemblement national et très mauvais pour le parti du président, mesuré bien en deçà des 20% d'intention de vote.
Merci Stéphane Robert. Côté météo, enfin, alerte orange, vague, submersion et vent en cours dans le Finistère. Vigilance orange également ce soir pour crue dans l'Eure et la Seine-Maritime. Situation plus calme sur le reste du pays cet après-midi, entre 18 degrés à Amiens, 20 à Paris et 26 degrés pour Tarbes, Strasbourg et Strasbourg. Justement, c'est ce que je viens de vous dire. Ce midi 30, il était réalisé avec Nicolas Pommet. Prochain journal dans la rédaction à 18h avec Aurélie Kiefer.